Sur...
Évidemment, extrêmement content et enthousiaste d'y retourner, mais c'est pas la même disposition. La première fois, j'étais un débutant et là, je suis un vétéran.
Décollage imminent pour le vétéran Thomas Pesquet. Dans quelques heures, l'astronaute français s'envolera pour l'ISS. Nous serons en Californie, près du siège de SpaceX avec notre envoyé spécial. Dans ce journal, rentrée scolaire en demi-jauge lundi pour certains collégiens des zones les plus touchées par le Covid. Une catastrophe pour les syndicats. Le désastre économique pour la filière viticole après les épisodes de gel. Et puis une résistance normande à Hollywood, sa vie mouvementée, racontée dans un documentaire nommé aux Oscars.
À suivre les sports et puis mon invité inattendu qui va nous emmener en apesanteur. Elle a eu la chance de l'expérimenter et même de danser en apesanteur. C'était à bord d'un avion et c'était avec un certain Thomas Pesquet. Elle va nous raconter tout ça à 6h15. Bon réveil, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc le grand jour pour Thomas Pesquet. Avec deux Américains et un Japonais, ils s'envoleront tout à l'heure pour la Station Spatiale Internationale depuis le Cap Canaveral en Floride. Mais c'est en Californie, depuis le siège de SpaceX, que sera dirigé et contrôlé le vol. Et c'est là qu'on vous retrouve, Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 sur la côte ouest des États-Unis. Ici, tout le monde est dans les starting blocks.
Oui, tout est prêt ici au siège de SpaceX pour ce second vol de la capsule Dragon propulsée par 9 moteurs qu'Elon Musk a baptisé Merlin car leur bruit, dit-il, l'enchante et une fusée Falcon 9 qui décollera tout à l'heure à 11h49 heure de Paris depuis le mythique pas de tir 39A à Cap Canaveral en Floride. Le centre de contrôle ultra moderne, entièrement vitré, est situé à l'intérieur même d'un immense hangar dans lequel Boeing construisait dans les années 80 les fuselages des 747. Une équipe de 25 contrôleurs est déjà là, scrutant le ciel de Floride et les paramètres de la fusée. Sur d'immenses écrans de télévision derrière eux, quelques dizaines d'employés seulement sur les 13 000 qu'emploie la firme aujourd'hui. Ils sont tous vaccinés, testés et masqués. Premier opérateur spatial privé, SpaceX a déjà effectué plus de 115 lancements en 20 ans et ses équipes fabriquent ici notamment les propulseurs au rythme incroyable d'un par jour avec 3 000 sous-traitants dans tous les États-Unis. Sur le terrain, en Floride, Thomas Pesquet et ses trois collègues astronautes viennent d'être réveillés. Ils prennent actuellement leur petit déjeuner. Dans quelques dizaines de minutes, c'est à bord de deux Tesla blanches qu'ils rejoindront la base de lancement avant de s'envoler pour la Station Spatiale Internationale qu'ils atteindront demain en milieu de matinée.
Merci Benoît Clerc en ligne de Californie pour Europe 1.
Vous restez avec nous, hein, Benoît. On va vous retrouver tout au long de la matinale pour suivre ces dernières heures avant le décollage. On retrouvera aussi notre spécialiste espace, Laure d'Autriche. 11h49 pour le décollage tout à l'heure. C'est dans 5h45, quelque chose comme ça.
Direction Mars à présent où le petit hélicoptère Ingenuity cumule les prouesses avec un deuxième vol réussi sur la planète rouge, plus long et plus haut que le premier lundi, 52 secondes à 5 mètres de hauteur. Et pour la première fois, l'appareil a effectué un mouvement latéral.
Allez, on va redescendre sur Terre. Le gouvernement a précisé le protocole sanitaire en vue de la rentrée scolaire de lundi.
Avec plus de tests salivaires dans les écoles, des autotests pour les lycéens chaque semaine. En revanche, il y a une mesure qui inquiète les syndicats. C'est le retour des demi-jauges pour les collégiens de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie. Une aberration pour Myriam Ménez, présidente de la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public dans le Val-de-Marne.
Pour ces élèves, on ne sait absolument pas par quoi ça va se traduire. Ça peut très bien être un jour sur deux, un matin, un après-midi. Si c'est comme ce que nous vivons actuellement sur les lycées, pour les familles, sachant que là, on est sur des enfants plus jeunes, bien souvent, ça veut dire qu'il faut rester avec eux, qu'on ne peut pas les laisser à la maison seuls. Ça veut dire que les familles, il va falloir qu'elles s'organisent, qu'elles prennent un jour sur deux, qu'elles soient en télétravail, si c'est possible ou pas. Enfin, ça va réellement être ingérable. Et en plus, dans ce principe du semi-présentiel, comme les enseignants en parallèle sont avec l'autre groupe, ils n'assurent absolument pas de cours à distance. Donc c'est vraiment uniquement le cours en présentiel qui compte. C'est donc plus que 50% de cours pour les enfants. Et donc ça va se traduire comme en lycée, avec seulement 50% du temps à l'école et 50% à la maison, à rien faire, devant la télé. Pour ces gamins-là, c'est une véritable catastrophe.
Myriam Ménès de la PEP, joint pour Europe 1 par Johanna Chabas. Et puis dès demain, tous les Français de plus de 55 ans pourront être vaccinés avec le vaccin Janssen. 200 000 doses ont été livrées la semaine dernière.
Il est 6h05 sur Europe 1. Les premiers bilans chiffrés commencent à tomber après les épisodes de gel qui ont décimé les vignobles français et ils ne sont pas bons du tout.
La récolte pourrait être amputée d'un tiers selon les premières estimations. Et Damien Mestre, les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros.
Oui, le manque à gagner se situerait entre 1,5 et 2 milliards d'euros pour la filière viticole. Les chiffres sont donc très importants et ils sont provisoires parce qu'on ne sait pas encore comment la vigne va repousser ou bien quelles seront les conditions climatiques jusqu'aux vendanges. Mais une chose est sûre, ces pertes sont historiques, explique Basile Faucheux des Jeunes Agriculteurs.
L'ensemble du vignoble français a été touché et ça, c'est quelque chose à prendre en compte réellement parce que c'est déjà arrivé hein, d'avoir des grandes pertes comme ça, mais c'était plutôt dans une ou deux régions viticoles, mais pas sur l'ensemble du vignoble français. Et en plus, ça arrive après une année très compliquée à cause du Covid.
10 régions sur 13 sont touchées. Il y aura donc beaucoup moins de millésimes 2021 chez les cavistes l'année prochaine. Selon les projections, la récolte pourrait s'élever à 32 millions d'hectolitres. Pour avoir un ordre de grandeur, elle était l'an dernier de plus de 46 millions.
Les précisions de Damien Mestre. À l'étranger, les médecins d'Alexei Navalny l'appellent à cesser sa grève de la faim au plus vite, alors que son état de santé continue de se dégrader. Ses médecins craignent pour sa vie. Emmanuel Macron est au Tchad aujourd'hui pour assister aux funérailles d'Idriss Déby. L'ancien président est mort le week-end dernier, juste avant d'être réélu, tué au front par des rebelles.
Et puis on va clore ce journal avec l'histoire de Colette. Colette Marin-Catherine, une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Elle a 93 ans aujourd'hui.
Ancienne résistante, elle a perdu son frère, déporté et mort dans un camp de concentration allemand. Des dizaines d'années après, Colette est retournée sur les lieux. Et c'est ce pèlerinage qui est raconté dans un documentaire qui porte son nom, Colette. Documentaire nommé aux Oscars. La cérémonie aura lieu dimanche à Los Angeles. Mais c'est très loin d'Hollywood que Romain Oquet a rencontré la nonagénaire. C'est à Caen. Et elle lui a tendu son micro pour recueillir son précieux témoignage.
Jean-Pierre a été arrêté en 1943 par la Gestapo pour finir au redoutable camp de Dora. Et c'est là qu'il est mort. Il a tenu le coup 2 ans.
Vous avez une photo de votre frère dans les mains.
Voilà, ben vous la regardez, ce beau gars qui avait... Là, il avait 14 ans. Il était vraiment brillant, très volontaire. Quand il avait décidé de traverser un mur, tant pis pour le mur. J'ai mis 30 ans ou 40 ans à oublier. Tout ce qui a réveillé les souvenirs en moi, c'est le documentaire de Doc Colette.
Ce documentaire, donc, ça raconte votre pèlerinage quand vous êtes allé pour la première fois en Allemagne dans le camp de concentration où votre frère est mort.
Absolument. Je savais très bien que je ne serais pas moi-même dès que j'aurais passé la frontière allemande. Et c'est vrai.
Qu'est-ce qui a changé en vous ?
Ça rouvre de nouvelles plaies. Quand on raconte une déportation, les paroles, ça s'envole. Mais quand vous avez touché du doigt la porte du crématorium, vous ne l'oubliez pas. J'ai posé des fleurs juste à l'endroit où il est mort. Vous ne l'oubliez pas. Mais je trouve que ce n'est pas payé cher, simplement pour honorer le souvenir de Jean-Pierre.
Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre histoire est nommée aux Oscars ?
Je suis vraiment étonnée de l'importance qu'a pris le film. J'ai pas l'habitude de vanter plus haut que mon moulin. Moi, je suis à Caen, dans mon HLM, depuis 31 ans. Oscar ou pas, ça changera rien à mon existence. Et je suis surtout vraiment heureuse qu'on ait réveillé la mémoire de Jean-Pierre.
Voilà le témoignage de Colette Marin-Catherine qui se confiait à Romain Oquet pour Europe 1.
Voilà, on suivra la cérémonie des Oscars dans la nuit de dimanche à lundi. C'était le journal de Sophie Echen. Il est 6h09. Les Mike Monnier pour le journal des sports et d'abord le football et ce coup de tonnerre sur Bordeaux. L'actionnaire principal s'en va sans crier gare.
Oui, rien ne laissait présager une telle annonce hier soir. Les Girondins, purement et simplement lâchés par King Street, ce fonds d'investissement américain qui avait repris le club fin 2018. Désormais, c'est le tribunal de commerce qui va décider de l'avenir du club. Peut-être un dépôt de bilan ou une remise en vente. Personne ne l'avait vu venir, à l'image d'Eli Baup, ancien entraîneur de Bordeaux.
C'est un choc, évidemment, très difficile à encaisser pour tous ceux qui aiment les Girondins, pour les supporters, pour tous ceux qui ont connu ce club qui fait partie vraiment de l'histoire du football français. Et l'avenir est incertain parce que là, soyez un repreneur et le déficit est conséquent, le rachat du club, enfin, je veux dire, il faut beaucoup d'argent. Soit c'est direction nationale 3 et c'est terrible pour tous les gens qui travaillent là-bas, pour tout ce que se représente aussi ce club, pour le football français, pour la ville, pour tous ces supporters qui sont nombreux. Voilà, c'est vraiment une cata, quoi. Voilà.
Elie Baup, qui avait mené les Girondins au titre de champion de France en 99, interrogé par Corinne Boulou. Aujourd'hui, le club est loin, 16e, et se bat pour son maintien et affronte Lorient dimanche.
Le cauchemar américain, c'est la une de l'équipe ce matin. Et ce week-end, c'est la 34e journée de Ligue 1.
Oui, avec Marseille qui va ouvrir les débats ce soir à Reims. Objectif, doubler Lens pour une 5e place qualificative pour l'Europe. Les Marseillais ont un calendrier de fin de saison a priori moins compliqué que les autres. Pas de gros poissons à l'horizon. On fait les comptes avec Boubacar Kamara.
C'est faisable. Après, il reste 5 matchs. Si on gagne 5 matchs, ça aboutira sur quelque chose. Après, on l'a bien vu qu'on a joué Lorient, ça a été difficile. On a joué Brest, on a galéré. Nice, on a pris une raclée. Donc, il n'y a pas de match facile. Et ce n'est pas parce qu'on ne joue pas les grandes équipes qu'il ne faut pas être prêt. Au contraire, c'est dans ce match-là qu'il faut se donner le plus pour vite se mettre à l'abri, parce que sinon, on va galérer.
Le défenseur de l'OM, Boubacar Kamara, avec Stéphane Frangy.
Le cyclisme, est ce week-end, place à la doyenne des classiques ardennaises.
Oui, après la Flèche Wallonne, place à Liège-Bastogne-Liège. L'année dernière, Julien Alaphilippe avait cru gagner. Il avait levé les bras quelques centimètres avant l'arrivée, avant de se faire doubler sur le fil par Roglic. Il n'est pas le seul Français à surveiller dimanche. David Gaudu, leader de la formation Groupama F2J, espère aussi y briller.
C'est des courses que j'aime où il faut frotter, il faut être placé au bon moment, et j'ai hâte d'être dimanche à Liège. Généralement, je monte en pression au fur et à mesure de la semaine sur des classiques. L'Amstel, j'étais très très moyen, la Flèche, j'étais bien, donc voilà, j'espère que je serai très bien, voire excellent à Liège.
Le coureur David Gaudu, interrogé par Axel May.
Et puis on va terminer ce journal des sports, et c'est assez inhabituel, en musique.
Voilà, vous reconnaissez peut-être le premier concerto pour piano signé Tchaïkovski. Eh bien, ce sera l'hymne des athlètes russes aux Jeux Olympiques. Vous le savez, la Russie est suspendue pour des raisons de dopage. Les athlètes doivent donc concourir sous bannière neutre et sans l'hymne russe, évidemment, remplacé par le compositeur du 19e.
C'est eux qui l'ont choisi ?
Oui, c'est eux qui l'ont choisi avec le comité olympique russe.
Ils ont choisi leur propre
représentant,
hymne qui ne sera pas l'hymne russe.
Tout à fait.
Merci à vous, Lénaïque Monnier. 6h12.
Europe 1.
Et le compte à rebours continue de défiler. C'est le jour J pour Thomas Pesquet, qui va s'envoler tout à l'heure à 11h49 vers la Station Spatiale Internationale pour 6 mois. 6 mois en apesanteur. Et l'apesanteur, mon invité inattendu du jour, a pu l'expérimenter. Bonjour.
Bonjour Sébastien. Alors moi je m'appelle Jeanne Morel et je suis danseuse, artiste et chercheur en milieu extrême et notamment en apesanteur depuis 5 ans.
Bienvenue à vous sur Europe 1. Je suis ravi que vous puissiez nous raconter ce matin cette expérience absolument incroyable. On va poster la vidéo de votre danse sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il faut vraiment aller voir ça. Vous avez dansé en apesanteur à bord de l'avion 0G qui permet de reproduire les conditions de l'espace. Les images sont assez magnifiques. Vous nous racontez dans un petit instant. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h14. Et il faut imaginer ces mouvements de danse classique en apesanteur. En apesanteur au sens propre, c'est ce que vous avez eu l'occasion d'expérimenter, Jeanne Morel. Merci d'être mon invité inattendu ce matin. Alors, finalement, se retrouver en apesanteur, c'est un peu le rêve de tout danseur, non ?
Écoutez, oui, c'est vrai qu'on joue avec la gravité, avec notre centre de gravité, et tout d'un coup se retrouver dans un milieu absolument nouveau, qu'on ne connaît pas, qui n'est pas comme un milieu marin, qui finalement nous rappelle peut-être le ventre de notre maman. On connaît l'eau instinctivement, l'apesanteur on ne la connaît pas, tout est à réapprendre en tant qu'être humain, mais bien sûr en tant que danseur, et c'est extrêmement intéressant.
Alors vous n'êtes pas allé dans l'espace, vous êtes monté à bord de l'avion 0G, c'est cet Airbus qui fait des vols paraboliques et qui reproduit les conditions de l'apesanteur. Comment vous en êtes arrivé à aller danser dans cet avion, à faire ces images, ces vidéos qui sont assez fascinantes?
Merci. Écoutez, je travaille en fait avec le Centre National d'Études Spatiales, avec l'Agence Spatiale Européenne, avec les astronautes, Thomas quand il est là, et puis Jean-François Clairvoy qui parraine mes recherches. Mais mes recherches, je les fais avec mon associé, l'artiste et chercheur Paul Marlier, qui lui est architecte, et on travaille ensemble sur la captation du mouvement et du cerveau en milieu extrême, afin de donner à voir la fragilité du vivant, la nôtre en tant qu'être humain, et puis celle de ces milieux naturels qui bougent, qui souffrent, et de fil en aiguille, de ces milieux nouveaux qui nous ont emmenés à travailler avec le CNES en 2016 en apesanteur. Donc ça a été un appel du CNES qui connaissait nos travaux en milieu extrême et qui s'est dit, ben tiens, on va envoyer cette fois, grâce à l'Observatoire de l'espace, un artiste afin d'avoir sa vision du spatial, ouais, de la Terre, ouais, du monde.
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une démarche artistique, il y a aussi une étude scientifique derrière.
En fait, nous, ce qu'on fait avec Paul Marlier, c'est de l'art-science. C'est-à-dire qu'on utilise nos recherches pour créer des œuvres qui puissent toucher le plus de gens possible. Et pour ça, je crois que c'est intéressant de mêler nos connaissances, nos cerveaux. Finalement, l'artiste et le scientifique, on n'est pas si différents que ça. On est deux explorateurs. On cherche avec passion. On ne sait pas forcément ce qu'on va trouver, mais on cherche. Et le fait de se rencontrer, de travailler ensemble, permet en effet un travail à la fois artistique, pour sensibiliser, pour prendre du recul sur le réel, pour toucher les gens peut-être.
Qu'est-ce
pour
que
se
vous
rassembler.
Ressentez-vous quand vous êtes en apesanteur, parce que vous continuez de le faire régulièrement?
Eh bien justement, moi, on peut peut-être du coup entrer dans le travail plus scientifique. Moi, ce que je ressens déjà, c'est un monde nouveau où tout est à réapprendre. Et pour moi, le spatial, c'est ça, c'est vraiment réapprendre ex nihilo. J'ai une adaptabilité du corps un peu poussé parce que comme je suis danseuse à la base, ben ça devient très intéressant d'utiliser les autres dimensions. Donc là,
on a l'impression de nager, un peu comme quand on est dans l'eau.
Non, pas du tout. Justement, il faut pas nager. Nager, c'est ce qu'on connaît. Et là, là, c'est vraiment nouveau. C'est comme quand vous rêvez que vous volez.
Oui, c'est assez incroyable. Alors, dans cet avion 0G, vous avez croisé, vous l'avez cité tout à l'heure, un certain Thomas Pesquet parce qu'il a pu commander cet avion. Il était d'ailleurs aux commandes certaines fois quand vous avez volé.
Bien sûr, j'ai travaillé pendant un an avec Thomas avant qu'il reparte à Houston. Et c'est quelqu'un de très lumineux, de très professionnel, qui a beaucoup d'humour. Et d'ailleurs, je lui souhaite un bon voyage et un bon travail là-haut.
Vous allez suivre son départ tout à l'heure et ses nouvelles aventures dans la Station Spatiale Internationale.
Bien sûr, moi je continuerai de danser sur la Terre et en apesanteur et j'espère qu'il passera vraiment un bon séjour.
Qu'est-ce qui vous a appris justement sur, je ne sais pas, la gestion du corps en apesanteur, lui qui a déjà passé 3 mois là-haut?
Alors Thomas pilote, donc quand il pilote l'avion, il peut difficilement passer du temps avec nous dans la cabine. Mais Paul et moi travaillons beaucoup avec Jean-François Clairvoy, qui est un astronaute absolument passionnant, qui parraine nos recherches et qui m'a beaucoup appris sur l'apesanteur, mais aussi sur nous en tant qu'êtres humains. Le fait de voir la Terre d'en haut, lui a changé sa vie. Et moi, le fait de danser en apesanteur m'a fait laisser tomber la gravité des choses. Je crois qu'on voit la vie autrement après ça.
Vous n'avez jamais été malade? Parce qu'on voit parfois des gens un petit peu barbouillés par cet avion qui fait quand même des grandes paraboles dans l'espace, enfin dans le ciel.
Et non, j'ai de la chance, je ne suis pas malade.
Voilà, vous n'avez pas le mal de l'espace. Ça peut être un rêve d'aller un jour accompagner des astronautes à la Station Spatiale Internationale ou sur la Lune pour aller justement faire une œuvre artistique là-haut. On peut rêver de ça un jour?
Je crois qu'on peut rêver de ça. En fait, on peut rêver d'essayer de faire une œuvre pour l'humanité. Je crois que le fait de penser l'espace, c'est penser le global. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. C'est abolir les frontières. Le ciel et l'art sont liés depuis très longtemps, en fait. C'est là qu'on envoie nos souhaits, nos prières, peu importe nos cultures. Après, est-ce que c'est pertinent d'envoyer un artiste dans l'espace? Pour l'instant, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Terre. Et oui, ça peut rester un fantasme. Si ça se réalise, c'est très beau. Et sinon, il y a plein de choses à faire ici.
Merci beaucoup, Jeanne Morel. 11h49, le départ de Thomas Pesquet tout à l'heure. Vous nous avez déjà mis un peu dans l'ambiance et vous nous avez emmenés en apesanteur ce matin. Merci à vous et à bientôt sur Europe 1.
À bientôt, au revoir.
Et je vous invite à aller voir ces images de cette danse en apesanteur sur le Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 6h21 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Le pic semble derrière nous, dit Jean Castex. Le Premier ministre a confirmé que la limite des déplacements à 10 km serait levée le 3 mai. Le couvre-feu jusqu'à 19h restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que cette libération des mesures est bien raisonnable? Je poserai la question à l'épidémiologiste Pascal Crépet qui sera mon invité tout à l'heure à 6h40. À propos de la rentrée scolaire lundi, 400 000 tests salivaires vont être déployés dans les écoles. Dès la semaine prochaine, les élèves de 4e et 3e des départements les plus touchés feront leur rentrée en demi-jour. Vladimir Poutine annonce le retrait de ses troupes à la frontière avec l'Ukraine. Le président russe se dit prêt à recevoir à n'importe quel moment son homologue ukrainien. Et puis Thomas Pesquet s'envolera donc pour la Station Spatiale Internationale à 11h49 tout à l'heure depuis la Floride.
Europe 1.
Et c'est l'heure de la partition avec Omblin Roche. Chaque jour, l'histoire derrière la musique, derrière un artiste ou derrière un groupe. Un groupe ce matin. Il y a 50 ans, les Rolling Stones sortaient l'un de leurs disques les plus célèbres, Omblin, Sticky Fingers.
Sur l'édition originale de 1971, on pouvait lire les noms des ingénieurs du son, suivi de la mention et toute personne qui a eu la patience de prendre part à ça durant 2 millions d'heures, voilà, un temps inexagéré, même si 2 ans quand même ont été nécessaires pour forger le disque de la première à la 10e piste.
Stones commencent à travailler sur Sticky Fingers. Ils sont bien décidés à tourner le dos aux années 60.
À fermer le couvercle sur une période chaotique qui aurait pu leur être fatale. Le décès de Brian Jones, d'abord juste après son éviction, remplacé par le jeune guitariste virtuose Mick Taylor, et le désastre d'Altamont, ce festival organisé par les Stones, resté tristement célèbre pour le meurtre d'un étudiant afro-américain par les Hells Angels engagés pour assurer la sécurité.
La nouvelle décennie qui commence est synonyme donc de nouveaux débats.
Voilà, ils lancent leur propre label, Rolling Stones Records, avec comme symbole la fameuse langue et les lèvres rouges.
Les Rolling Stones ont fait du scandale leur fonds de commerce. Avec Sticky Fingers, il n'y a plus de limite dans la drogue et dans la débauche.
La femme d'abord, objet sexuel démoniaque, et la drogue, oui, la dure, cocaïne, morphine, héroïne et ses différents modes d'administration. Sticky Fingers résume finalement ce qu'est le côté obscur du rock des années 70.
Musicalement, les Stones poursuivent la quête sonore du sud profond américain.
Ils se rendent en Alabama, sur les terres ancestrales du blues et de la soul, dans les studios de Muscle Shoals. Ils enregistrent notamment Wild Horses, qui comme Satisfaction est une chanson que Keith Richards a vue en rêve.
Lorsque l'album sort, il est numéro un des deux côtés de l'Atlantique. Et sa pochette agit comme un formidable catalyseur.
Et oui, le scandale rapporte, on l'a dit plusieurs fois cette semaine finalement. Cette pochette conçue par Andy Warhol, cette anatomie masculine moulée dans un jean noir et cette braguette remontée, on dit que le modèle et l'acteur Joe Alessandro Lefebvre de la Factory, l'atelier du photographe Warhol. Saviez-vous que la fermeture éclair a posé problème, hein, pour rappel, vous la descendiez sur le vinyle, enfin sur la pochette, pour découvrir un magnifique gros plan sur un slip kangourou dans la pochette intérieure. Eh bien, elle endommageait les vinyles lors de leur stockage. Brown Sugar, c'est-à-dire l'héroïne en argot junkie, est l'une des merveilles rapportées d'Alabama par les Rolling Stones. Le reste de l'album, enregistré en Angleterre, conserve une empreinte américaine.
sur Europe 1, c'est donc l'héroïne Brown Sugar.
Exactement.
Chantée par bien sûr les Rolling Stones sur l'album culte des Stones, sorti il y a 50 ans tout juste le 23 avril 1971, Sticky Fingers.
Oui, c'est même le morceau d'ouverture, hein, la toute première piste. Ce Sticky Fingers, cet album, est le premier enregistré dans son intégralité avec le guitariste Mick Taylor qui apporte au groupe un nouveau souffle et une touche d'originalité.
La partition d'Amblin Rush dans laquelle on apprenait donc que Keith Richards voyait des chansons en rêve.
Exactement, enfin, Satisfaction et Wild Horses. Mais il voit beaucoup de choses en rêve.
Merci à vous, Amblin Rush. Dans la matinale de Pierre de Villeneuve demain,
oui.
6h45, c'est
exactement.
Ça
et on rendra hommage à Dick Rivers demain matin.
Demain, alors. Demain. 6h29. Et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Si vous n'avez pas envie de vous lever du bon pied après ce qu'on vient d'entendre, les Stones, les amis, les Stones, allez.
Alors, une petite couche.
Ah oui, c'est comme ça qu'on se levait, dites. Il fait beau, j'ai pratiquement rien à dire, le ciel est clair, le soleil sera là, les vents sont bien sûr présents, mais enfin, ils ne vont pas trop nous gêner puisque les températures sont quand même assez élevées aujourd'hui et nous aurons des valeurs de 17 à 26 degrés, 17 à Belfort, 26 à Cahors, en passant par 18 à Strasbourg, par 20 degrés à Paris, 21 à Marseille et Lyon, 22 à Lons-le-Saunier, 23 à Brest, 24 à Toulouse, bref, des températures largement printanières. Et nous avons ce matin quand même des petites gelées. J'en parlerai tout à l'heure, mais vraiment des gelées éphémères. Hein. 0 à Épinal, 1 à Nevers, Vichy et Calais, ce sont vraiment des toutes petites gelées. Elles vont disparaître dans l'heure qui vient. Et puis, les températures du matin vont se situer entre 5 et 10 degrés sur la plupart des régions. Voilà, demain samedi, un léger voile, mais ce sera encore stonique, comme les Rolling.
Merci Laurent Cabrol sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bon réveil. Tout de suite, votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
Il est 6h30.
Nous constatons depuis 10 jours une baisse réelle de la circulation virale. Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée.
Jean Castex annonce quelques bonnes nouvelles, mais reste d'une prudence absolue. Les commerçants, on les entendra, sont ulcérés de ne toujours pas avoir d'horizon détaillé sur leur réouverture. Thomas Pesquet paraît à décoller, c'est dans 5h20. D'ici là, tout un tas de petits rituels entre tradition et superstition. Et puis le club de foot de Bordeaux, abandonné par son actionnaire, le fonds américain King Street. Incertitude et inquiétude pour l'avenir des Girondins.
Après le journal, le pic est-il vraiment derrière nous? Est-il raisonnable de commencer à lever progressivement les restrictions. Le regard d'un épidémiologiste ce matin sur les mesures annoncées hier soir. Pascal Crépet avec nous dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Jean Castex s'est donc exprimé hier soir pour annoncer la levée progressive des restrictions. Le Premier ministre confirme la rentrée scolaire lundi avec un protocole sévère. Une classe sera fermée dès qu'un de ses élèves est contaminé. Et pour ce qui est de la suite, le gouvernement fait preuve de beaucoup de retenue. Hélène Terzian.
L'exécutif entrouvre la porte pour ne pas devoir la refermer aussitôt. Avec une situation sanitaire qui s'améliore, le Premier ministre fait sauter deux verrous. L'école, avec le retour des élèves en maternelle et en primaire lundi, et le 3 mai, la fin de la limitation de déplacement. Mais pour le reste, le gouvernement garde le pied sur le frein. Certes, les commerces, activités culturelles, sportives et terrasses pourraient rouvrir autour de la mi-mai, mais s'agit-il du 13, juste avant le week-end de l'Ascension, du 15 mai ou bien du 17, ça va venir bientôt répondre. Ponton à Matignon. Si on veut que les citoyens restent vigilants, on ne peut pas envoyer 50 000 messages. Pourtant, s'il y en a bien un que les Français attendent, c'est celui du couvre-feu. Là aussi, le gouvernement marche sur la pointe des pieds. Il sera maintenu jusqu'à nouvel ordre, affirme le Premier ministre qui renvoie une fois de plus à la mi-mai. Nous verrons où en sera la situation épidémique. Sera-t-il territorialisé? Pourquoi pas, confie son entourage, qui insiste sur l'efficacité du couvre-feu. Ce n'est pas la mesure qu'on lâchera en premier.
Hélène Terzian.
On en parlait hier et vous entendiez à cette heure-ci l'appel du président du groupe Printemps. Les commerçants appelaient le gouvernement à pouvoir rouvrir au plus tard le 10 mai. Ils n'ont pas du tout été entendus.
Oui, Jean Castex n'a pas apporté beaucoup de précisions quant à la reprise économique. Déception forcément pour les restaurateurs et pour les commerçants qu'on dit non essentiels, qui espéraient y voir plus clair. Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, ne cache pas son agacement.
C'est un sentiment de ne pas être entendu et un sentiment d'incompréhension quand on entend d'un côté le Premier ministre annoncer la levée de toutes les restrictions de circulation à partir du 3 mai. On ne comprend pas qu'on ne puisse pas être plus clair sur la réouverture des commerces non essentiels. Ça reste encore très très flou pour nous. Quelles seraient ces étapes? Quelle serait cette progressivité? Encore une fois, il faut bien se rappeler que des commerces sont fermés depuis 3 mois maintenant. Et donc que prolonger cette fermeture, même pour une partie de ces commerçants, aggrave chaque jour leur situation. Donc il nous faut maintenant une visibilité. Et encore une fois, je le redis, nous avons un protocole sanitaire sur la table. Nous savons l'appliquer. Il a été renforcé au mois de décembre de l'année dernière. Et donc, nous sommes prêts à ouvrir.
Johan Petiot avec Clément Le Saff pour Europe 1.
Allez, échappons-nous un petit peu de ce contexte. On a tous les yeux tournés vers l'espace ce matin. Alors que 4 astronautes, dont le Français Thomas Pesquet, s'apprêtent à décoller pour rejoindre la Station Spatiale Internationale.
Et ce, à bord de la fusée ultramoderne de SpaceX. 3 écrans tactiles pour tout contrôler. Le vol va durer 23 heures. Le module fera 15 tours de la Terre, le temps d'atteindre la vitesse prodigieuse de 28 000 km/h, c'est l'allure de la station spatiale. Mais d'ici au décollage, quand on est astronaute, on n'échappe pas à une série de rituels à respecter scrupuleusement. Et ce ne sont pas que des checklists scientifiques lors d'Autriche.
Thomas Pesquet et ses collègues monteront dans la fusée 3 heures avant le décollage. Mais avant cela, il y a des étapes imposées. Le monde du spatial est une industrie superstitieuse. Après avoir pris le petit déjeuner de leur choix, les 4 astronautes qui s'apprêtent à partir doivent jouer à un jeu, par exemple un jeu de cartes, et gagner absolument contre le chef des astronautes de la NASA. Puis direction la fusée. Sur la route, ils inscrivent leur nom sur le mur des astronautes. Une fois qu'ils sont assis à leur place à l'intérieur du vaisseau, Thomas Pesquet sera installé à droite. Il y a plusieurs vérifications à faire, que la communication avec le centre de contrôle fonctionne bien, que le vaisseau soit bien étanche, et ce sera le moment de mettre les carburants dans les réservoirs. Et comme le veut la tradition, chaque équipe emporte dans la fusée une peluche qui se mettra à flotter dès qu'ils seront en apesanteur et qui indique aux astronautes qu'ils ne sont plus soumis à l'attraction terrestre.
L'heure d'Autriche que l'on va retrouver tout au long de cette matinale sur Europe 1, l'envoyé spécial au centre de contrôle de SpaceX aux États-Unis. On le rappellera tout à l'heure dans le journal de 7h, Benoît Clerc.
Oui, parce que Thomas Pesquet va enfiler sa combinaison dans à peu près une heure. Hein, ça y est,
c'est millimétré.
C'est millimétré. Décollage donc 11h49 pour l'heure précise. On revient sur Terre et on reparle de l'enlèvement de la petite Mia et de cet homme, Rémi Daillé, exilé en Malaisie et recherché par les enquêteurs français.
Oui, car un autre homme l'accuse d'une forme d'enlèvement. C'est un père de famille qui désigne Rémi Daillé, ce leader complotiste, ancien élu du Modem, comme l'homme qui a manipulé son ex-femme et kidnappé leurs 3 enfants, Marion Dureuil.
Oui, du jour au lendemain, Lilian Van Herp a tout perdu à cause de Rémi Daillé. Il y a 5 ans, il avait prévu de s'installer en famille en Malaisie. Son épouse était partie en avance avec leurs 3 enfants et son employeur rencontré sur Internet, le fameux leader complotiste à la tête d'une entreprise de coaching.
Une emprise, vous rendez compte? Elle pose le pied là-bas au bout de 3 jours. Elle n'a même plus parler à son compagnon de ça fait 20 ans qu'on est ensemble, qu'on a eu 3 enfants. C'est du délire. Je me suis même demandé s'il la droguait pas.
Quelques mois après, son fils aîné est rentré en France, mais il n'a jamais revu les 2 plus jeunes. Lilian a déposé plainte pour soustraction d'enfants, sans succès. La garde a été confiée à la mère, en couple avec Rémi Daillé, mais elle n'a jamais respecté son droit de visite. Chaque année, Lilian dépose plainte pour non-présentation d'enfants.
Je ne suis pas entendu. Il ne mesure pas la dangerosité de Rémi Daillé. C'est ça le gros problème. Un complotiste, c'est quelqu'un qui croit en des complots qui n'existent pas. Lui, ce n'est pas un complotiste. Lui, c'est un mec qui, depuis qu'il l'a prouvé, histoire de Mia, vous voyez, ils font leur dessin.
Lilian espère que l'affaire de Mia va l'aider à revoir ses enfants. En l'absence d'entraide judiciaire entre la Malaisie et la France, ce père de famille envisage aujourd'hui de s'adresser directement au roi de Malaisie pour lui demander d'intercéder en sa faveur.
Marion Dubreuil.
L'un des plus prestigieux clubs français, les Girondins de Bordeaux, est dans l'incertitude la plus totale depuis hier soir.
Oui, depuis que son propriétaire américain a décidé de se désengager. Le club a été placé sous la protection du tribunal de commerce. Une situation très inquiétante, Corinne Boulou, pour l'avenir des Girondins.
Oui, d'autant que la période choisie pour lâcher le club est désastreuse. Les Girondins, en proie à des difficultés financières chroniques, bataillent à la 16e place du championnat pour éviter de sombrer. L'attitude du fonds d'investissement américain King Street ravive donc les critiques. Après avoir racheté le club 100 millions d'euros en 2018 et y avoir investi 46 millions sans retour sur investissement, il a donc décidé de jeter l'éponge, plongeant les Girondins dans la crise. Alain Giresse, l'un des joueurs emblématiques des années 70-80, ne cache pas son inquiétude.
De prendre un club comme ça et de
de le salir, de le souiller. C'est, ça ne les effleure pas, quoi. Donc, c'est regrettable. Il faut avoir quand même l'inquiétude, parce que d'abord, la situation purement sportive n'est pas réglée. Hein. Et puis après, qu'est-ce qui va advenir du club? Et bon, quand on a comme ça un fonds d'investissement qui vient, non pas pour porter, aménager et aider un club de football, mais pour avoir des retombées financières, bon, ben, c'est pas leur problème.
Le club a donc été placé sous la protection du tribunal de commerce. Un mandataire va être nommé et il sera chargé d'étudier les éventuelles propositions de repreneurs.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1.
6h38, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1.
Europe 1.
Et j'accueille l'invité du 5-7. Bonjour Pascal Crépé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique de Rennes. On en parlait dans le journal, la stratégie de déconfinement s'amorce donc. Retour des élèves à l'école lundi, levée des restrictions de déplacement le 3 mai. Est-ce bien raisonnable? C'est un peu la question que je vais vous poser ce matin. Vos réponses dans quelques secondes. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1, l'épidémiologiste Pascal Crépé, mon invité ce matin. Votre regard donc sur la stratégie amorcée par le gouvernement pour amorcer cette levée des restrictions. D'abord, sur la situation de l'épidémie, il y avait de bonnes nouvelles hier dans le discours du Premier ministre. Le pic de la troisième vague semble derrière nous, dit-il. Vous êtes d'accord sur ce constat ?
Oui, c'est vrai qu'on observe à l'heure actuelle d'abord un plateau et puis s'annonçant une descente en pente douce. Malheureusement, cette pente douce est donc moins forte que celle que nous avions pu constater en novembre et en mars de l'année dernière suite au dernier confinement. Mais c'est quand même une pente et donc ça va quand même dans le bon sens. Mais ça veut dire aussi que nous avons relativement moins de marge de manœuvre vis-à-vis de cette réouverture, de ce déconfinement.
Oui. Selon vous, ça veut dire que le reflux, ça y est amorcé, on peut dire ça ?
Le reflux semble amorcé, mais c'est un reflux qui reste fragile. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très précautionneux vis-à-vis de ce relâchement des mesures et bien surveiller la situation sanitaire, voire ne pas hésiter à faire un pas en arrière si jamais l'on constate cette pente se transforme en plateau. Il faut absolument éviter de rester sur un plateau haut tel que celui que nous avons connu ces dernières semaines, ces derniers mois.
Alors, est-ce que dans ce contexte, les décisions qui sont prises vous semblent risquées? Est-ce qu'on est sur le bon tempo? Est-ce que c'est le moment, par exemple, si on commence par ça, de renvoyer les élèves de primaire dans les classes? Ou est-ce que ça vous paraît risqué?
Alors, c'est forcément un risque. Hein. C'est un risque, mais qui est aussi associé à beaucoup de bénéfices, notamment pour les enfants et puis aussi pour leurs parents qui vont pouvoir travailler et notamment télétravailler pour ceux qui le peuvent. Après, c'est vrai que pour les enfants et donc pour le fait qu'ils soient en contact les uns avec les autres, il y a forcément un risque de contamination. Ce risque chez les enfants de maternelle et de primaire semble quand même être moindre que celui qui existe pour les collégiens et les lycéens. Et donc le fait de mettre en place des tests salivaires, de continuer de renforcer la politique de tests salivaires dans les classes et éventuellement de fermer les classes dès le premier cas devrait permettre de limiter ce risque de contamination. Il s'agit d'avancer vraiment avec prudence.
Avec prudence. Mais le gouvernement donne quand même des perspectives. Et c'est vrai que c'est encourageant pour tout le monde. Ça nous redonne le moral. Réouverture des terrasses à partir de la mi-mai, des commerces, de certains lieux culturels. Là, ce n'est pas acté, mais la date est quand même plusieurs fois répétée depuis plusieurs jours maintenant. Je vous pose la même question. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on est dans le bon timing?
Il y a un an, je vous dirais que cette mesure m'inquiète et voire que je ne la comprends pas. On est maintenant à plus d'un an de crise pandémique avec une fatigue de la population très développée. On a besoin de retrouver une forme de vie sociale et les restrictions sur nos interactions avec les uns et les autres deviennent de plus en plus pénibles à vivre, notamment avec l'arrivée des beaux jours. Donc je pense que la réouverture typiquement des terrasses, des bars et des restaurants peut se faire sous condition, et la condition c'est que en échange de cette liberté retrouvée, il y ait un vrai effort de la part de la population pour éviter de se retrouver en intérieur chez les uns et chez les autres. Donc si cette réouverture permet une meilleure adhésion et un meilleur respect.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Rentrée des classes confirmée dès lundi pour les maternelles et les primaires avec fermeture des classes dès le premier cas détecté de Covid. Les lycéens reprendront en demi-jauge, tout comme une partie des collégiens dans les 15 départements les plus touchés par le virus. Ce sera la semaine suivante. À Lille, une école maternelle a été incendiée dans le quartier du Faubourg de Béthune. La mère Martine Aubry indique que les pompiers ont été pris à partie à leur arrivée sur place, subissant des tirs de mortier d'artifice. Et puis Emmanuel Macron est arrivé au Tchad pour les obsèques de l'ancien président Idriss Déby. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour est un nouveau type de carburant. On en parle au sommet du climat pour réduire les émissions de CO2. Alors ce n'est pas du biocarburant, mais de l'électrocarburant. Quelle est la différence?
D'abord, tous les deux sont beaucoup plus vertueux à produire. Tous les deux peuvent se substituer à l'essence, au diesel, au kérosène. On peut en mettre directement dans les moteurs actuels. La différence, c'est que le biocarburant est fabriqué à partir de végétaux, alors que l'électrocarburant, lui, est conçu à partir d'hydrogène vert. Et surtout de CO2 récupéré dans l'air. Donc deux avantages, il va supprimer les émissions des usines puisque c'est dans les fumées et qu'il va chercher sa matière première et il n'y aura aucune concurrence avec l'agriculture.
Oui, mais s'il se substitue au carburant actuel, ça veut dire qu'il rejette aussi du CO2 dans l'atmosphère ?
C'est vrai, mais c'est du CO2 recyclé qui aurait déjà dû être rejeté par un industriel. Mais évidemment, c'est pas l'idéal, mais dans beaucoup de secteurs, on n'a pas d'autre solution pour atteindre une neutralité carbone. Prenez le transport aérien ou le fret par bateau, par exemple. Aujourd'hui, n'ont aucune alternative viable, hein, parce que oui, une alternative qui sont non viables, ça n'a aucun intérêt, une alternative viable au fioul ou au kérosène. Alors bien sûr, on parle de bateaux électriques ou d'avions à hydrogène, mais ce sont des projets qui sont extrêmement lointains. Et il faut rappeler qu'un tanker ou qu'un avion, ça reste en service pendant facilement 30 ans. Donc dans tous les cas, la transition prendra énormément de temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de solutions intermédiaires comme l'électrocarburant.
Alors j'imagine qu'il sera beaucoup plus cher que le fioul ou que le kérosène qu'on connaît.
Oui, deux fois plus, hein, c'est le principal problème. Mais il va bénéficier de subventions, il va servir aussi à la compensation carbone. Encore une fois, dans certains secteurs, il n'y a pas d'alternative. La production en volume devrait commencer l'année prochaine et on devrait donc entendre parler de cet électrocarburant.
L'électrocarburant, l'innovation du jour, signé Anissa Mbida. Merci. 6h52 et nous débutons ce tour du monde en Angleterre avec vous Anaïs Cordoba, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une des journaux britanniques ?
Eh bien ici la presse relaie les excuses du gouvernement britannique pour n'avoir pas commémoré comme il se doit plus de 100 000 soldats noirs et asiatiques du Commonwealth morts au combat pendant la Première Guerre mondiale. The Independent explique, contrairement à leurs frères d'armes européens, certains de ces soldats sont commémorés de manière collective avec un mémorial sans nom, d'autres n'ont tout simplement pas de pierre tombale. Le Times revient en détail sur le rapport parlementaire qui a exposé cette injustice. Je cite, après la guerre, certains gouverneurs britanniques ont estimé que les populations locales n'accordaient pas de valeur sentimentale à ces honneurs. Un historien réagit dans le quotidien, c'était de l'apartheid dans la mort. La BBC cite la commission des cimetières militaires du Commonwealth qui s'engage à réparer ces erreurs et à construire de nouveaux lieux de mémoire pour ces soldats oubliés.
Anaïs Cordoba, merci correspondante d'Europe 1 à Londres. Direction Tokyo à présent, bonjour Bernard Delattre.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui occupe les médias japonais ?
Les Jeux de Tokyo dans 3 mois, jour pour jour. Sauf que l'état d'urgence va à nouveau être décrété dans la capitale. Ce sera sans impact sur les JO, assure Thomas Bach, le patron du CIO. Un homme si déconnecté de la réalité qu'il braque encore un peu plus les Japonais contre ces Jeux, s'énerve le journal Mainichi. Arrêtons les frais, annulons ces JO. C'est ce qu'écrit en une l'autre grand quotidien de gauche, le Asahi, et c'est un pavé dans la mare. Jamais un journal n'avait brisé ce tabou. Il faut que ces Jeux aient lieu, réagit le quotidien conservateur Yomiuri, qui est sponsor de l'événement. Et nos athlètes doivent être vaccinés en priorité, ajoute le journal nationaliste Sankei. Oui, mais 35 millions de seniors n'ont pas encore été vaccinés au Japon. Donc cette idée indigne les réseaux sociaux, où le ton monte de plus en plus, ce qui fait dire à l'agence de presse Jiji que pour ces JO, ça commence vraiment à sentir le roussi.
Voilà, les Jeux font encore débat auprès des Japonais à 3 mois de la cérémonie d'ouverture. Merci à vous Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Nous terminons aujourd'hui au Brésil. Bonjour Marine Audacher.
Bonjour Sébastien.
De quoi on parle dans la presse brésilienne ?
Des multinationales qui quittent le Brésil. C'est au tour de Lafarge-Holcim, le groupe franco-suisse, de vendre ses actifs. Le plus grand fabricant de ciment au monde planifie de quitter le Brésil, titre l'Estadão et la Folha de São Paulo. Pourtant, le secteur de la construction se porte bien, plus 19% ce trimestre. Une décision qui surprend la Chambre brésilienne de l'industrie et de la construction, croit savoir le quotidien de São Paulo, qui cite d'autres exemples de groupes qui ont quitté le Brésil. La japonaise Sony a vendu son usine de Manaus en Amazonie. Elle était au Brésil depuis plus de 50 ans. Sur le départ aussi, l'américaine Ford qui a cessé toutes ses activités en début d'année. Et puis le fabricant de téléphones LG qui a vendu une de ses usines à São Paulo. Crise économique, politique, sanitaire, chômage en hausse, tout cela fait fuir les multinationales, rapporte l'hebdomadaire Carta Capital.
Marina Dacher au Brésil pour Europe 1. Merci à vous.
Europe 1.
Et c'est aux États-Unis que nous serons dès le début du journal de 7h au cœur du centre de contrôle de la fusée SpaceX. Le compte à rebours continue de défiler. 11h49, décollage prévu de Thomas Pesquet vers la station spatiale internationale. Le 7-9 de Mathieu Belliard à suivre sur Europe 1. Il est 7h05.